Bonjour Claire et bonjour à tous. Effectivement, toujours en public et en direct du Mémorial de Caen, la deuxième partie de notre série de quatre émissions spéciales sur le 6 juin 1944, les derniers jours avant le jour J.
Communiqué number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
D'histoire. Le 6 juin 1944 ne se limite pas aux quelques heures du débarquement en Normandie. Pour qu'une telle opération réussisse et pour briser sur un front de 80 km la formidable forteresse que les Allemands avaient dressée tout autour de l'Europe, il a fallu mettre en œuvre des moyens considérables. Derrière les 150 000 Américains, Anglais, Canadiens et même Français du débarquement, il y avait une concentration de navires, d'avions et de matériel comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire et sans lesquels l'opération Overlord aurait pu devenir un désastre. Pour qu'elle réussisse, il a fallu, bien avant le 6 juin 44, le travail obscur de millions d'hommes et de femmes qui, dans les bureaux, les usines et les ports d'Angleterre et des États-Unis ou dans la résistance française, ont rendu possible la victoire des Alliés. Il fallait aussi le sens de l'organisation et de sang-froid de celui qui, en décembre 1943, prenait le commandement de la plus grande opération militaire de l'histoire, le général Eisenhower.
In effect, the stage is being set for the beginning of the great and crucial
test. Tout est prêt pour l'épreuve finale et décisive dans le monde entier.
I have complete confidence.
Je suis fermement convaincu que les soldats, les marins, les aviateurs et les populations civiles des nations alliées vont montrer une fois pour toutes qu'une démocratie debout peut devenir la plus formidable machine de guerre que l'on puisse imaginer.
Bye, 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 bye a bond. And by and by, the bonds you buy will bring you victory.
Jean-Bernard Moreau, Marc Potier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le général Eisenhower au moment où fin 43 il prenait le commandement de l'opération Overlord. Alors à ce moment-là, vous nous l'avez rappelé hier, les préparatifs du débarquement avaient déjà commencé, mais encore fallait-il en choisir la date et puis alors surtout coordonner l'action de tous ceux qui y ont participé directement ou indirectement. Et là, le rôle d'Eisenhower a été capital, Jean-Bernard Moreau.
Oui, parce que le général Eisenhower était réputé pour être un officier d'état-major ayant des grandes qualités d'organisateur, de planificateur, et il avait mis ses talents en lumière, notamment lors de l'opération Torche.
C'est lui qui l'a commandé.
Oui, c'est lui qui commandait donc ce débarquement en Afrique du Nord en novembre 42. Et aussi bien les Britanniques que les Américains se sont ralliés à sa nomination comme chef d'état-major des armées alliées et du corps expéditionnaire en Europe.
Alors le 14 janvier 1944, donc 5 mois avant le débarquement, Eisenhower met en place un état-major, ce qu'on appelait le chef, le Supreme Headquarters. Dit le grand quartier général du corps expéditionnaire allié, qui était composé de 7 personnes. Il y avait évidemment, puisque c'est une opération anglo-américaine avant tout, 4 Britanniques, dont un homme considérable, qui était le maréchal Montgomery, le vainqueur d'El Alamein 2 ans plus tôt, et qui alors, tout de suite, décide de transformer un peu le plan qui était initialement prévu. À l'origine, il y avait, je crois, 3 plages de débarquement en Normandie. Là, il en rajoute 2 pour élargir le front, je crois.
Oui, il considérait que le premier plan qui avait été imaginé par les responsables du COSAC était trop étriqué, en fait.
Le COSAC, c'est ceux qui avaient imaginé donc,
le plan. Principe, ouais. Le principe de débarquement en Europe. Et il se répartissait donc sur 3 plages, sur une étendue de 40 km de large. Et il considérait que c'était beaucoup trop étriqué et que c'était se mettre finalement dans un goulet d'étranglement face aux défenseurs allemands. Et donc il a imaginé de rajouter une plage du côté occidental.
Il y avait 3 plages, hein, je rappelle. Il y avait Juno, Gold et Omaha, c'était le nom de code. Voilà. Et il rajoute donc à l'ouest une autre plage de débarquement qui était Swords, je crois.
Oui.
Et à l'est, pardon, hein, tout près de Ouistreham. Et à l'ouest, il y avait Utah. C'est ça, au pied du Cotentin.
De manière à se rapprocher de Cherbourg pour justement favoriser une prise rapide d'un grand port permettant le débarquement de matériel et aussi d'hommes.
Alors, dans l'état-major du général Eisenhower, il y avait aussi d'autres figures, puisqu'ils étaient sept au total. Il y avait l'amiral Ramsay, qui commandait les forces navales, le maréchal de l'air Lee Manory. C'est des gens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. Et puis, alors, il y avait d'autres personnes. Il y a le général Bradley, je crois, aussi.
Le général Bradley, qui était chef, donc, du corps expéditionnaire américain, de la première armée américaine, qui supervisait les opérations sur les plages, donc, d'Utah et Omaha.
Et puis, alors, en face, donc, tout de l'autre côté de la Manche, eh bien, il y avait aussi le mur de l'Atlantique et celui qui était chargé, qui en était responsable, le maréchal Rommel.
Compte tenu de nos installations fortifiées, compte tenu de l'excellent moral de nos troupes, du nouvel armement et des moyens dont nous disposons, nous pouvons envisager l'avenir avec la plus grande sérénité. Nous n'avons plus à nous poser la question si tout va bien ou non, tout va bien. Avec ce qui les attend ici, les Anglais ne reviendront pas.
Poursuivant sa vaste tournée d'inspection, le maréchal Rommel rend aujourd'hui visite au secteur pyrénéen. Sur toutes les côtes de l'Ouest européen, s'étend le plus gigantesque système fortifié qui ait jamais été construit. Du Cap Nord aux Pyrénées, des centaines de milliers d'hommes veillent. Si la guerre devait se déchaîner sur notre sol, des milliers de casemates seraient prêtes à croiser leur feu.
Alors c'était une archive française de 1943, date à laquelle Rommel prenait le commandement des forces terrestres allemandes en Europe de l'Ouest et donc du mur de l'Atlantique qui, comme son nom l'indique, ne défendait pas seulement les côtes de Normandie. D'ailleurs, les Allemands ne savaient même pas où les Alliés atterriraient. C'était un mur gigantesque.
Disons que c'était une ligne de défense plutôt qu'un mur, parce qu'un mur, ça fait penser un peu à la muraille de Chine, c'est un mur continu, alors que là, c'est plutôt un système défensif qui s'étend sur 4000 km des côtes de la Norvège jusqu'aux Pyrénées. Mais ce mur est un mur qui est loin d'être infranchissable, comme le laissait entendre la propagande allemande et aussi vichiste. C'est en fait un système de défense qui est d'une efficacité très inégale selon les endroits. Par exemple, de l'estuaire de la Somme jusqu'aux côtes du Nord-Pas-de-Calais, pour ce qui concerne la France, les casemates bétonnées qui sont très très puissantes.
Il y en avait 15 000 sur les 5
000
km
ensemble. Mais par exemple, dans le nord de la France, elles sont espacées tous les 750 mètres, alors que sur les côtes de Normandie, elles sont espacées tous les 1500 mètres. Donc déjà, on voit que c'est plus perméable en Normandie que dans le nord de la France.
Alors il y a aussi une chose que Rommel a ajoutée à ces casemates. Il faut le rappeler d'ailleurs, ces casemates qui ont été bombardées intensément avant le débarquement. Il s'agissait de détruire justement ces casemates pour permettre le débarquement en Normandie.
Oui, disons que c'était véritablement le souci premier des Alliés, c'était de détruire toute la puissance de feu allemande qui, aux yeux des Alliés, était quelque chose de très conséquent. Et en fait, on s'est aperçu que certaines casemates étaient même démunies de canons. Exemple le plus célèbre, c'est
la Pointe du Hoc. Alors, cela dit, il y a beaucoup de villes normandes, de la côte normande, on l'a vu en les visitant hier, qui ont beaucoup souffert de ces premiers bombardements avant le débarquement. Alors, Rommel va y ajouter à ces casemates toute une série de matériel étonnant qui était sur les plages. Il y avait ce qu'on appelait les asperges de Rommel, qui étaient des pieux, hein, avec des mines au bout. Il s'agissait d'empêcher les barges de débarquement d'arriver. Il y avait aussi ce qu'on appelait les hérissons tchèques.
Les hérissons tchèques, oui.
Jean-Bernard Moreau.
D'où leur nom provient du fait que c'était des défenses qui avaient été prises sur la ligne de défense en Tchécoslovaquie. Et après donc l'annexion d'une partie de la Bohème, enfin de la Tchécoslovaquie, la Bohème-Moravie, donc, les Allemands avaient donc transféré ces hérissons sur les plages de Normandie comme des éléments de la ligne Maginot qui avait été utilisée en 40 par la France et été transportés sur les côtes de Normandie.
Alors il s'agissait de repousser les Alliés dès leur débarquement sur les plages de Normandie, hein, c'était la stratégie de Rommel qui était un peu différente de son supérieur hiérarchique, qui était le maréchal von Rundstedt, qui lui commandait l'ensemble des forces allemandes dans toute l'Europe de l'Ouest.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la fameuse controverse Rommel-Rundstedt. Rommel, lui, considérait que pour vaincre ou pour les Alliés, il fallait absolument les repousser sur les plages et que la première journée, les premiers 24 heures seraient décisives. Et c'est de lui que vient cette phrase affirmant que la bataille serait perdue ou gagnée sur les plages et que les 24 premières heures seraient décisives et c'est là où la bataille serait gagnée ou perdue.
Et il disait, ce sera le jour le plus long. Alors, Rundstedt, lui, en revanche, dit que, parce que ça suppose, la stratégie de Rommel, qu'on étende les forces sur l'ensemble des côtes des pays occupés par l'Allemagne, alors que Rundstedt dit on n'a pas assez de forces, nous on va mettre ça à l'intérieur, et dès qu'ils auront débarqué, on portera nos forces donc vers le lieu de débarquement. Alors pour briser la défense allemande, mais aussi transporter à travers la Manche les forces de débarquement, les Alliés mobilisent eux aussi des moyens matériels considérables, fabriqués dans les usines et les chantiers d'Angleterre, et surtout des États-Unis.
Qu'en est-il de vous, les ouvriers d'usine? Des canons, des chars, des avions? Le responsable de la production, Donald Nelson, sait de quoi il parle. Notre unique mission est la suivante. Fabriquer assez de matériel de guerre pour écraser Hitler et les Japs. Et ceci dans les délais les plus courts. Nous en sommes loin. Nous avons besoin de plus en plus d'armes et nous en avons besoin tout de suite. Le facteur temps est primordial. Prenons un exemple. Une usine de mitraillettes équipe un régiment en un jour et demi, 36 heures de travail. Voilà pourquoi les heures comptent. Chaque minute compte.
Every minute counts. We must be vigilant, we must be vigilant, American patrol. With arms for the army, ships for the navy, let this be our goal. We must be diligent, American patrol. Protect our shoreline to the doorline of every native soul. We need this solidarity, or else divided we will fall. It means the popularity of peace and happiness for all. Behind this cause we must keep rallying, let there be no dilly-dallying. Keep us free from shilly-shallying, hark to freedom's call. On the land, in the air, on the sea, everywhere.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les préparatifs du débarquement en direct du mémorial de Caen.
Et c'était « We must be vigilant », nous devons rester vigilants, comme l'était, on l'a entendu, le responsable de la production de guerre américaine, Donald Nelson. Alors, le succès du 6 juin 44, Marc Potier, c'est pas seulement celui des soldats qui ont débarqué, c'est aussi celui des armes qu'ils ont utilisées. Alors là, c'est extraordinaire, l'imagination dont les Alliés ont fait preuve.
L'imagination et puis surtout la capacité du complexe militaro-industriel américain à fournir des quantités absolument astronomiques de matériel. Plus de 2700 Liberty Ships vont être construits, vont permettre d'acheminer donc ces 1 500 000 GIs qui vont être sur les côtes de la Grande-Bretagne. Plus de 150 000 soldats américains arrivant chaque mois. Donc à partir de janvier 44 en Grande-Bretagne, le sud de l'Angleterre est un véritable arsenal prêt pour le débarquement.
Alors, il y avait aussi les barges de débarquement qui ont joué un rôle énorme, ce qu'on appelle les LCT, je crois.
Absolument. Ce sont des matériels qui ont été spécialement construits pour donc permettre le débarquement de soldats, mais aussi de véhicules lourds, de chars. Il y a aussi toute cette imagination qui est au service finalement des troupes alliées en fabriquant des chars ou des véhicules spéciaux, les fameux Funnies.
Ce qu'on appelle les Funnies, mais les...
Oui, qui sont du matériel, c'est le général Hobart qui va penser justement à fabriquer cet appui-feu indispensable pour, au moment où on sera sur les plages, permettre aux soldats de franchir le mur de l'Atlantique dont on a parlé.
Alors il y a même quelque chose d'extraordinaire, c'est la fabrication en Angleterre de deux ports artificiels. Comme les Alliés avaient renoncé à débarquer dans un port, ils ont construit des ports, littéralement, en Angleterre, qu'ils ont transportés à travers la Manche juste après le débarquement, pour qu'ils puissent ravitailler justement les forces de débarquement.
Voilà, c'est la grande idée de construire ces deux ports artificiels, ces Mulberries, un Mulberries A en secteur américain qui sera détruit après la tempête des 19, 20 et 21 juin 1944.
On les voit encore au large de Wiscroix.
On voit celui au large d'Arromanche, le Mulberry B en secteur britannique. C'est un complexe absolument exceptionnel, 500 hectares, avec le matériel fait pour, selon les marées monter et descendre, permettre en continu de débarquer des dizaines de milliers de véhicules, bien que il faut aussi dire que sans port artificiel, les Américains ont tout de même permis de débarquer deux fois plus de matériel qu'à Arromanche. Ceci étant, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été fabriqué.
Mais alors, ce qui est exceptionnel aussi, c'est fabuleux, c'était en lisant vos livres, Jean-Bernard Moreau et Marc Potier, c'est que ceux qui fabriquaient en Angleterre ce matériel, ces ports, ignoraient tout de leur destination, ils ne savaient même pas ce qu'ils fabriquaient.
Absolument, c'est toujours garder au maximum ce secret, faire que les travailleurs ne savaient pas pourquoi ils fabriquaient, donc dans différents endroits, et puis tout cela a été regroupé à la fin pour permettre donc l'acheminement à travers la Manche de ces ports artificiels. Toujours le secret.
Alors le secret, justement, il a été bien gardé jusqu'au bout pour que les Allemands ne sachent ni comment, ni surtout où le débarquement aurait lieu. Alors compte tenu évidemment de la quantité de bateaux et de troupes stationnées dans le sud de l'Angleterre, les Allemands savaient parfaitement bien que le débarquement aurait lieu, mais alors ils ne savaient pas où, et c'est là qu'intervient une des plus fantastiques opérations d'intoxication de l'histoire, l'opération Fortitude, destinée à leur faire croire, à faire croire aux Allemands, justement, que jusqu'à la dernière minute, que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie. Alors, il n'existe pas, bien sûr, d'archives de cette opération qui était secrète, mais cet extrait du film L'arme à l'œil montre bien en quoi elle consistait.
En ce qui les concerne, les Allemands sont convaincus qu'il n'existe que deux possibilités sérieuses pour un débarquement allié en Europe. Et ils ont raison. En partant de l'East Anglia, ici, jusqu'au Pas-de-Calais, ou en partant de la côte sud de l'Angleterre vers les plages de Normandie. L'opération Overlord, elle, a choisi la Normandie. Sur ces photos, on peut voir les forces d'invasion alliées de Patton rassemblées en East Anglia.
Que font le général Patton et son armée dans l'est de l'Angleterre?
Il n'y a pas d'armée. Ces appareils sont des maquettes en contreplaqué.
Tout ce dispositif doit tromper l'ennemi.
Alors, ce qui est extraordinaire dans le débarquement, c'est qu'on a fabriqué, on vient de l'entendre, une armée factice qui était commandée par le général Patton, qui était couvert de gloire déjà, et là, cela pour faire croire, il était installé dans l'est de l'Angleterre, pour faire croire justement que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non en Normandie, Jean-Bernard Moreau.
Oui, disons que les chefs militaires alliés étaient véritablement obsédés par les fuites qui auraient pu avoir lieu, effectivement, de la part d'indiscrétions ou de propos qui auraient été tenus ou écrits par les soldats. Et donc, une grande information était dite aux soldats qu'il fallait pas qu'ils parlent, même à leur père, à leur mère, à leur fiancé, parce que parler, ça pouvait tuer un camarade. Et donc, il a été créé cette armée fantôme, faite de carton-pâte. Beaucoup de décorateurs de théâtre londoniens ont été mobilisés pour justement faire les peintures sur ces armes factices. Ou alors, il y avait aussi des armes réformées qui étaient utilisées, notamment sur des barges qui étaient mises là. Et l'idée, c'était de donner soit une information de débarquement sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, soit en Norvège, disons, pour dégager le sud de... Ouais.
Mais dans votre livre, Le débarquement et la bataille de Normandie, Jean-Bernard Moreau, il y a même, on voit quatre soldats qui soulèvent un char parce que les chars de cette fausse armée de Patton, ils étaient construits en caoutchouc gonflé.
En caoutchouc gonflé, les chars, les camions étaient tout à fait factices.
Marc Potier ?
Oui, tout est faux, tout est mis en scène. Il y a même, en mai 44, un faux Montgomery, qui est un acteur qui va jouer donc Montgomery étant à Gibraltar, et tout est fait donc pour vraiment persuader que les principaux chefs, et notamment Patton, si Patton est le patron de cette fausse armée, et Patton étant réputé comme le meilleur des généraux alliés, tout est fait pour faire croire que l'on va véritablement débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais et non pas en Normandie.
Mais il y a des millions d'hommes et de femmes qui préparent le débarquement, et combien de personnes étaient au courant du lieu et de la date, la date peut-être, je crois, personne en réalité, parce que ça dépend de la météo, on le verra, mais du lieu du débarquement.
C'est un tout petit groupe, c'est ultra, ultra secret, ultra défense, c'est Bagnot, c'est vraiment l'état-major, c'est le chiffre, et puis un entourage, mais tout est fait pour que, au maximum, aucune fuite ne puisse couler, ne puisse permettre donc aux Allemands de savoir où et surtout quand.
En tout cas, ce secret de cette opération Overlord est bien gardé jusqu'à la dernière minute, et ce n'est que 4 jours avant que ce débarquement se produise que le général de Gaulle est au courant et mis au courant par Churchill de son imminence. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, le 2 juin 44, de Gaulle, qui se trouve à Alger, reçoit un message de Churchill le pressant de venir à Londres. Venez le plus tôt possible et dans le plus profond secret, c'est dans l'intérêt de la France. De Gaulle comprend que le jour J approche et il décide donc de partir. Il ne faut pas, dit-il, qu'on puisse dire que la France était absente du quartier général dans l'assaut de l'Europe. Mais de Gaulle est méfiant. Il se sent mis à l'écart depuis longtemps par Roosevelt, le président américain, qui parle de Gaulle comme d'un fanatique, une nature fasciste. En effet, pour lui, c'est un homme sans légitimité démocratique. La souveraineté réside dans le peuple, affirme Roosevelt. Aussi longtemps que 90% du peuple français ne sont pas libres d'exercer leurs droits politiques, aucun individu ou aucun groupe ne sera reconnu par les États-Unis comme le gouvernement de la France. Alors, du côté anglais, Churchill reconnaît à De Gaulle de la grandeur, mais son obstination l'agace aussi. De Gaulle est un homme d'esprit fasciste, dit-il parfois. Alors, pourtant, début juin 1944, l'opinion anglaise est de plus en plus favorable à De Gaulle. Aux États-Unis aussi, il a des soutiens. Pour le général Eisenhower, par exemple, il est indispensable que De Gaulle soit consulté pour réussir le débarquement. Il écrit en effet à Roosevelt « De Gaulle contrôle les seules forces militaires qui puissent prendre part à l'opération », allusion à la résistance. « En conséquence, du point de vue purement militaire, nous sommes tenus de traiter avec lui seul ». C'est donc dans ce contexte que De Gaulle arrive en Angleterre le 3 juin. Churchill lui annonce l'imminence du débarquement et lui demande d'engager avec les Britanniques et les Américains des discussions sur l'administration future de la France quand elle sera libérée. Et là, De Gaulle explose. « Pourquoi semblez-vous croire que j'ai à poser ma candidature pour le pouvoir en France? Le gouvernement français existe. Je n'ai rien à demander dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, non plus qu'à la Grande-Bretagne. » Et très énervé, De Gaulle ajoute « Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie », allusion donc au billet de banque que le gouvernement américain a déjà fait imprimer pour la France. Et Churchill, très énervé aussi, répond à De Gaulle « Nous allons libérer l'Europe, mais c'est parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous, Britanniques, nous choisirons le grand large. »
Et étonnant, Marc Potier, cette méfiance de Churchill et de Roosevelt vis-à-vis de De Gaulle, alors qu'il s'agissait d'un débarquement en France, et que la résistance, on ne l'a pas nommée, mais elle est importante, la résistance française a donné des renseignements sur le mur de l'Atlantique.
Voilà, principalement la résistance avait comme mission, et surtout en Normandie, une résistance qui a beaucoup de difficultés à vivre, à exister, parce que nous sommes dans une région extrêmement avec une forte présence de troupes allemandes. Mais cette résistance, elle a comme vocation, comme mission de donner d'informations. Où sont les troupes? Quelles sont leurs qualités? Quelles sont leurs tenues? Et puis aussi, à quoi ressemble le mur de l'Atlantique sur lequel vont débarquer les troupes alliées?
Alors, ça explique peut-être l'absence, pratiquement, de troupes françaises le jour du débarquement. Je crois qu'il n'y avait que les commandos, enfin que les 177 membres, c'est ça, du commando Kieffer, qui ont débarqué, Jean-Bernard Moreau.
Oui, le jour de
sur 150 000.
Sur 150 000, il y avait 177 Français, composés essentiellement de Normands et de Bretons, qui avaient rallié Londres dès 1940-41. Et pour le général de Gaulle, c'était une présence, certes symbolique, mais très importante, montrant que la France était aussi une France combattante pour libérer son territoire.
Alors la 2e division blindée arrivera plus tard, hein, parce que le débarquement, c'est pas seulement le 6 juin, il y aura toutes les troupes qui viendront après. Alors, avant, puisqu'on en est à la veille du débarquement, à J-1, avant que la date soit décidée, parce qu'on connaît le lieu, tout est prêt, mais il manque encore la date, et la date, elle n'est décidée qu'à la dernière minute par Eisenhower, à cause, je crois, de la météo, Marc Potier.
Oui, une météo qui est très importante. Les conditions météo vont aussi contribuer à cet effet de surprise. Au début du mois de juin, on sait très bien, et les météorologistes britanniques, le groupe Captain Stagg est vraiment très très puissant. Ils savent qu'il y a vraiment des conditions exécrables, mais que l'on aura une fenêtre d'accalmie, une fenêtre de beau temps à partir du 5 et 6 juin. Et cela va contribuer à ce que la décision soit prise, que véritablement on va débarquer. Au départ, c'était prévu le 5 juin, mais finalement, c'est repoussé au lendemain. Et le groupe Capitaine Stagg dit « on y va ». Et ce que Eisenhower, reprenant, dira « let's go, allons-y ».
Parce qu'il y avait la météo, il y avait aussi le fait qu'il fallait débarquer à mi-marée, je crois.
Oui. C'est la spécificité de ce débarquement, c'est que les autres débarquements avaient eu lieu de nuit et à marée haute, et celui-là a eu lieu à l'aube et à mi-marée. Et c'est, ça a été un des éléments de surprise du côté allemand, qui certes s'attendait un petit peu à voir des débarquements sur les côtes nord de la France, mais certainement pas ce jour-là, vu les conditions climatiques, et surtout à cette heure-là.
D'autant plus d'ailleurs que ce jour-là, Rommel part en Allemagne. Il est tellement sûr qu'il n'y aura pas de débarquement le 6 juin que le 5, il part en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme.
Pour l'anniversaire de sa femme et pour essayer de rencontrer Hitler, pour trancher le différend qu'il a avec Rundstedt. Et les troupes qui ont été beaucoup sollicitées pendant le mois de mai à cause des alertes aériennes ont quartier libre ce jour-là.
Alors quand est-ce que Eisenhower prend la décision? À quelle heure à peu près?
À 14h.
Et dans son état-major?
Et dans son état-major, il est à peu près le seul à véritablement prendre cette décision, et non sans inquiétude quant à la réussite, mais il se dit que c'est maintenant ou jamais, et donc il donne le feu vert pour le débarquement.
Une décision historique qui déclenche donc la première opération du débarquement, le décollage des Américains des 82e et 101e Airborne qui devaient être parachutés sur le Cotentin. Jean-Bernard Moreau et Marc Potier, merci. Écoutez ce qui fut le premier premier reportage justement sur le débarquement en Normandie, enregistré en Angleterre au moment où décollaient les premiers avions de l'opération Overlord.
The first aircraft that is going to lead the very front in the early hours of tomorrow morning is turning onto the end of the tarmac to make its takeoff. A graceful machine. Taking off from here loaded with parachutists.
Quel bel avion qui va s'envoler rempli de parachutistes, emportant peut-être les espoirs, les peurs et les prières de millions de gens de ce pays qui dorment encore, ignorant tout de cette puissante opération.
This is Richard Dimbleby speaking from an aerodrome in England on the night of June the 5th.
Je vous parle d'un aérodrome en Angleterre, le soir du 5 juin. Et voilà que décolle le premier avion transportant les premiers parachutistes qui vont atterrir en Europe demain matin pour le début de notre grande attaque.
C'était une archive extraordinaire, le premier reportage sur le débarquement en Normandie, le jour J dont nous parlerons demain. Je rappelle les titres des livres de mes invités, Jean-Bernard Moreau, qui est l'auteur du livre « Le débarquement et la bataille de Normandie », publié par le Mémorial de Caen, où nous sommes. Et quant à vous, Marc Potier, vous êtes l'auteur de deux petits livres, « De Gaulle », d'une part, et « La Seconde Guerre mondiale », également publié par le Mémorial de Caen dans la collection 2 euros. Vous avez entendu un extrait du film « L'arme à l'œil » de Richard Marquand avec Donald Sutherland. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs, au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou pour une bibliographie plus complète, avec tous les livres qui paraissent en ce moment sur le débarquement. Vous pouvez consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Bernard Quentin et Eric Audra à Caen, Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser et Claire Destacan. Revue de texte de Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.